Il est 10h à Paris, 9h à Libreville, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue, RFI vous informe et vous donne la parole. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, votre bilan du dialogue national au Gabon. Mais d'abord, le journal. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une de cette édition, cette vague de chaleur qui se poursuit en Asie du Sud-Est. Nous sommes à Bangkok dans un instant. Vous l'entendrez, autant que les plus fragiles et les personnes âgées, ce sont les plus démunis qui souffrent du dérèglement climatique. Les mobilisations étudiantes pro-palestiniennes dans les universités se poursuivent dans plusieurs pays. Aux États-Unis, certains protestataires sont sanctionnés par les directions. En France, la région Île-de-France brandit la menace de la suspension des subventions pour Sciences Po. Opération lutte contre l'immigration hier en Tunisie. Une vingtaine d'arrestations parmi des migrants d'origine subsaharienne qui avaient pour projet de rejoindre l'Europe. Un succès pour les autorités tunisiennes et pour le président Kaïs. Et depuis, c'est un contrat mirobolant signé entre Qatar Energy et un groupe naval chinois. 6 milliards de dollars pour le renforcement des capacités d'exportation du GNL qatarien. Violente vague de chaleur en Asie du Sud-Est. Depuis quelques jours, le mercure dépasse régulièrement les 40 degrés Celsius. C'est notamment le cas en Thaïlande, 44 degrés dans plusieurs provinces, jusqu'à 50 ressentis à Bangkok. Et cet épisode touche particulièrement les plus fragiles, tout naturellement les plus âgés, mais aussi les plus pauvres, eux qui ne disposent souvent pas d'air conditionné et qui exercent des métiers qui les poussent à rester dehors. Le reportage à Bangkok de Carole Izou.
Au marché de la lumière de la lune, près de la rivière Chao Phraya à Bangkok, Nichapat tient un stand de légumes. Depuis quelques jours, la chaleur habituelle en cette saison est devenue véritablement insupportable, ce qui rend le travail difficile et menace aussi ses revenus et ceux de sa famille.
Il fait tellement chaud, on n'a jamais connu ça. On monte à 42, 43, 44 degrés. À Bangkok et dans les provinces, c'est fou du coup, mes légumes pourrissent plus vite. J'essaie de les asperger d'eau, mais ça peut aussi les abîmer, donc on perd de l'argent.
Si la chaleur affecte tout le monde, elle frappe plus durement les plus fragiles, les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques et les plus pauvres, qui n'ont pas accès à l'air conditionné et doivent souvent passer de longues heures à l'extérieur. Vendeurs ambulants, chauffeurs de moto-taxi. Dans les campagnes, la canicule et la sécheresse menacent les récoltes et les revenus des agriculteurs. Dans les villes, la consommation record d'électricité due à l'air climatisé apporte un soulagement aux classes moyennes tout en contribuant à la hausse des températures extérieures. Carole Izou, Bangkok, RFI.
Et de la Thaïlande en passant par la Birmanie et les Philippines, ce sont des records de chaleur qui sont actuellement battus en Asie du Sud-Est et qui poussent certains gouvernements à fermer les écoles, notamment obligeant des millions d'enfants à rester à la maison. En Géorgie, après de nombreux rassemblements pour dénoncer la loi sur l'influence étrangère, également appelée loi russe, c'était hier soir au tour du parti au pouvoir d'organiser une grande contre-manifestation. Des milliers de personnes étaient ainsi rassemblées devant le Parlement à Tbilissi. Selon différentes sources, de nombreux manifestants ont toutefois été transportés sur place pour participer à cette mobilisation organisée par le rêve géorgien. Le texte doit être examiné ce mardi au Parlement en deuxième lecture. Une réponse du Hamas attendue sur une proposition de cessez-le-feu à Gaza. Une délégation du groupe palestinien a rejoint Doha hier soir après avoir assisté à une réunion au Caire en présence de médiateurs égyptiens et qatariens. Selon David Cameron, chef de la diplomatie britannique, elle comprendrait 40 jours d'arrêt des combats, mais aussi la libération de milliers de Palestiniens en échange des otages israéliens. Son homologue américain Anthony Blinken dit lui espérer une réponse favorable du Hamas quand Joe Biden, le président américain, souhaite que l'Égypte et le Qatar fassent tout leur possible pour convaincre le Hamas. Les États-Unis où des étudiants poursuivent les manifestations pro-palestiniennes dans certaines universités. À Columbia, certains protestataires ont commencé à être sanctionnés, suspendus administrativement par la direction. Un mouvement suivi dans plusieurs pays étrangers à l'instar de la France, à Sciences Po Paris notamment, suite à la mobilisation, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de bloquer les subventions de l'école. Elle a évoqué des violences et menaces de ne plus subventionner sans un retour au calme. Valérie Pécresse demande un sursaut d'autorité et dénonce une certaine inaction de la direction de l'établissement. Valentin Hugues.
Ce qui ne passe vraiment pas pour Valérie Pécresse, c'est ce blocage de Sciences Po en fin de semaine dernière pour demander la paix à Gaza. La présidente de région y voit une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite. Cette mobilisation étudiante à Paris qui fait écho aux contestations dans différents prestigieux campus américains. Et quand un établissement est bloqué, c'est à la direction de trouver une issue. Dans le cas de Sciences Po, décision avait été prise d'envoyer les forces de l'ordre. Après quelques heures avec la police et entre militants pro-palestiniens et pro-israéliens, des négociations ont eu lieu. La direction s'est alors engagée à organiser un débat interne et à abandonner certaines procédures disciplinaires contre des manifestants. Une issue qui ne semble pas plaire à Valérie Pécresse, qui bloque donc le 1 000 000 d'euros que Sciences Po doit recevoir de la région pour l'année 2024. La gauche a immédiatement mentionné le cas du lycée parisien Stanislas, qui a récemment conservé ses subventions malgré différents scandales, avec des cas de violence, d'homophobie ou encore de sexisme. Le groupe socialiste du Conseil régional dénonce un deux poids, deux mesures de la part de Valérie Pécresse.
Valentin Huguet, notait qu'à l'instant, le ministère de la Santé du Hamas établit un nouveau bilan de 34 000 1535 morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Il y avait 77 450 détenus en France au 1er avril 2024, un nouveau record selon le ministère de la Justice, soit 4 370 détenus de plus que sur l'année précédente et une très forte augmentation de personnes contraintes de dormir sur un matelas au sol, faute de place selon cette même source. Après sa mise en examen dans le cadre d'investigations sur le financement de dépenses personnelles, Arnaud Lagardère, dirigeant du nom du même groupe, a abandonné ses mandats exécutifs, dont celui de PDG. Lui conteste cette mise en examen et annonce vouloir faire appel, a indiqué le groupe Lagardère dans un communiqué. En Tunisie, les autorités ont mené hier lundi une opération visant officiellement à lutter contre l'immigration illégale et les trafiquants de migrants. Une intervention qui s'est déroulée alors que les tensions allaient crescendo dans le pays depuis plusieurs semaines. Les précisions d'Amira Swilem à Tunis.
Blindés, hommes cagoulés et armés dont certains descendent du toit en rappel, sous les applaudissements des riverains, les autorités tunisiennes ont voulu marquer les esprits. Quelques accrochages, une vingtaine d'arrestations et un immeuble repris aux migrants, un succès pour les autorités tunisiennes. Dans l'édifice ciblé, vivaient des dizaines de migrants subsahariens en attente pour la plupart d'une traversée clandestine vers l'Europe. C'est la dernière opération de délogement des forces de sécurité tunisiennes qui opèrent aussi dans les campements spontanés qui se sont formés dans la périphérie de la ville de Sfax, plaque tournante des départs. Dépassées par le phénomène de l'immigration irrégulière, les autorités tunisiennes peuvent difficilement compter sur l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations, supposée organiser des retours dits volontaires dans les pays de départ, mais qui se heurte au manque de coopération de certains pays africains. Quelques heures après cette opération, le président Kais Saied a reçu son ministre de l'Intérieur au palais de Carthage pour le féliciter de l'intervention qui a eu lieu selon un communiqué, à la demande même du chef de l'État. Amira Swilem, Tunis, RFI.
Amira Swilem qui, sur le même sujet, signe le grand reportage du jour sur RFI. Elle dresse un état des conditions de vie des migrants subsahariens en Tunisie après les propos du président Kais Saied à leur rencontre l'an dernier. Rendez-vous à partir de 19h40, temps universel et en podcast sur les différentes plateformes, notamment l'application RFI Pure Radio. Qatar Energy, géant des hydrocarbures, va construire 18 méthaniers géants pour le compte d'un chantier naval chinois. Un contrat qui s'élève à 6 milliards de dollars et qui doit permettre le renforcement des capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié de l'Émirat. L'entreprise parle du contrat le plus important jamais signé dans ce domaine. Précision Nathanaël Vitran.
18 navires capables de transporter 270 000 mètres cubes de GNL chacun, tous construits sur le chantier naval de Hudong Zhonghua à Shanghai. Le ministre qatarien de l'énergie a fait le déplacement tout exprès à Pékin pour signer ce contrat du siècle. Il parle de navires ultramodernes, les plus grands jamais construits. La guerre en Ukraine a fait grimper les cours. Les Européens ont remplacé le gaz russe par du GNL qui peut, lui, être transporté par bateau. Mais la demande vient surtout des pays asiatiques. Le Qatar est l'un des principaux fournisseurs de la planète et le pays s'est engagé à fournir à la Chine 3 millions de tonnes de gaz par an pendant 27 ans. L'Émirat mise notamment sur l'exploitation future du champ gazier Northfield, présenté comme l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Le GNL suscite aussi l'intérêt de nombreux groupes pétroliers qui y voient une énergie de transition. Il pollue moins, c'est vrai, que le fioul par exemple, mais ce bénéfice est largement compensé par les émissions liées à son extraction et à son transport via des méthaniers géants, comme se concerner par ce contrat.
Explication Nathanaël Vitran, 10h10. Ici à Paris, vous avez rendez-vous avec Juan Gomez.
C'était le journal de Nemo en Peace.